sings. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks
on Route 66. Un jour, Michel Barrette est notre invité, si vous ne le savez pas encore. Un jour, Michel, avec Thérèse, on va vous offrir un samedi matin ou un dimanche matin l'ultime collection musicale pour un road trip. Puis je pense qu'on va te réinviter parce que toi, t'en as fait de la route.
Oui, beaucoup.
Tu connais l'Amérique.
Oui.
T'as tellement roulé. J'en ai roulé pas mal. Et on a roulé ensemble, d'ailleurs. Oui. Ça, c'était bien. Mais avec une musique d'accompagnement.
Oui, ça prend de la musique pour la route.
Oui.
Tu n'écoutes pas sur la route la même musique que tu vas écouter dimanche soir à 11h sous la neige. Il y a de la musique qui nous qui impose le rythme.
Et toi qui es un expert dans tout ce qui est mécanique et qui roule, tu l'as dit, tu as fait la route 66 9 fois, mais avec différents moyens de transport. Tu nous parlais tout à l'heure du Buick Regal.
Grand National.
Mais le Buick Regal 2020, c'est fini. Après, il n'y a plus de Buick Regal.
Fini pour le Regal, mais à mon avis, le seul Regal qui vaut la peine d'être collectionné, puis là, les amateurs d'automobiles vont se reconnaître, là, c'est le Buick Regal Grand National. C'est-à-dire qu'en 85-86, mais spécialement en 87, la dernière année, Buick avait développé un moteur 6 cylindres turbo, un moteur formidable, mais il n'y avait pas de voiture sport chez Buick. Alors, ils ne savaient pas dans quelle caisse ils allaient déposer ça. Alors, ils ont pris un Buick Regal, qui est un char un peu de mon oncle. Ils l'ont peinturé tout en noir. Il n'y avait pas d'option de couleur. Ils ont descendu le moteur là-dedans. Et c'était la voiture la plus rapide que tu pouvais acheter en Amérique du Nord en 1987. C'était le Buick Grand National.
Et bien sûr, tu en as eu une.
J'en ai acheté une à 30 ans, en 87, que j'ai encore d'ailleurs. Elle est comme une neuve.
Et ça t'a mis dans le trouble.
Ben, cette voiture-là, oui. Parce que j'avais 30 ans, j'étais fou. Je me suis retrouvé à un moment donné à Old Orchard pour faire original. Et j'ai voulu montrer à un propriétaire de Corvette que ma voiture était beaucoup plus rapide que la tienne. J'y ai prouvé mon point, sauf que j'ai fait ça devant les policiers. Alors, poursuite policière, le gun, cours dans le bois, la grosse affaire. Ça fait que j'avais été barré des États-Unis pendant un an sans avoir le droit de mettre les pieds aux États et 3 ans sans avoir le droit de conduire aux États-Unis. La même voiture, la Sûreté du Québec à l'époque, est débarquée chez moi, chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais ils sont vraiment débarqués. Ils ont dit, Michel, tu n'as plus de permis, tu vas te débarrasser de cette voiture-là, parce que sinon, demain, aussitôt que les 4 roues sont dans la rue, on te remorque, puis c'est fini.
Wow!
Alors, j'ai vendu la voiture à l'époque, et je l'ai retrouvée des années après, dans le même état que je l'avais vendue. Puis dans mon garage, mais maintenant que je suis rendu sage et vieux...
Non, t'es pas vieux, arrête de dire
non,
ça.
Non, mon fils me dit que mon jeune garçon qui a 13 ans m'a dit que j'étais pas vieux. Papa, t'es pas vieux, t'as juste beaucoup d'années.
Regarde, tu te rappelles, moi j'aime.
Beaucoup d'années, c'est
oui, t'as beaucoup d'années, c'est beaucoup d'années. De moi. Je cite souvent, tu te rappelles le groupe Jefferson Airplane?
Bien sûr.
Grace Slick. Et qui était une chanteuse magnifique d'ailleurs et tout ça. Elle est toujours magnifique, sauf qu'elle a 80 ans. Et ils ont fait une entrevue avec elle il y a quelque temps. Où elle raconte toutes les folies qu'elle a pu faire et tous les excès. Puis elle dit, au fond, j'ai 80, elle dit, moi, vous résumez ça de la façon suivante. J'ai toujours 15 ans dans ma tête, sauf que je tombe en morceaux.
Non, mais c'est exactement ça.
Dans notre tête, quand on se lève le matin...
17, moi.
T'as 17 ans.
J'ai 17.
D'ailleurs, t'as été touché par notre nostalgie.
Mm-hmm.
Thérèse et moi, on a commencé l'émission en disant, moi, on dit que c'était le fun quand on allait sur la rue Sainte-Catherine. Puis nos parents nous amenaient là. Puis il y avait du monde partout pour le magasinage du temps des fêtes. Aujourd'hui, t'achètes sur Amazon.ca.
Ça, ou encore, tu vois... Vous l'avez bien dit, Amazon, c'est un peu vicieux parce que t'achètes un objet.
D'accord.
Si vous avez aimé ce produit, vous allez peut-être apprécier ce... Voilà. T'en as toute une liste. Hey, l'autre jour, sur Amazon... J'achète une affiche du Grand Prix de Monaco de 1967. Belle affiche. Alors, je l'achète. Non. Et en plus, comme vous l'avez bien dit, ton numéro de carte de crédit est déjà enregistré. Ça fait que sur un clic, c'est réglé, puis ça arrive, genre, ça cogne à la porte déjà, tu sais. Mais là, alors, comme vous avez acheté celui-ci, on m'a proposé Monaco 1964, 65, 66, 68.
Qu'est-ce que tu fais?
Ben écoute, j'ai fini ma journée, j'ai toutes les affiches de toutes les années.
Mais tu vois, alors que tu disais que tu as des souvenirs de magasinage, de temps des... Surtout ton
grand-père, il aimait pas ça. Mon grand-père, il haïssait ça, lui. Faites-moi pas de liste de cadeaux, il haïssait ça, les magasiner. Fait qu'il partait avec moi en cachette. En cachette, il disait, Michel, on va faire un tour de char.
Avant Noël.
Avant Noël, mettons 2 semaines avant Noël. Ou 3 semaines avant Noël. Il disait, on va aller faire un tour de char. J'aimais ça, aller faire un tour de char, mon grand-père. on allait au centre d'achat.
Il te laissait conduire en plus.
En plus, oui, mais ça, il me laissait conduire, j'avais 6 ans. Non, mais écoute, hey, je
reviens. On rit, puis je reviens pas ça.
Hey, je reviendrai au cadeau. J'ai 6 ans, on s'en va à la messe de 11 heures, on partait à 10 heures. L'église, c'était à 5 minutes, parce que pendant une heure, faisait le tour du pâté de maison, en attendant que la place se libère devant l'église. Quand la messe de 10 heures se terminait, le char qui était parqué là, il s'en allait. Oups, il parquait sa voiture. Parce qu'à la fin de la messe de 11 heures, c'était bien important que ça soit sa voiture qui soit devant les marches du Christ-Roi à Chicoutimi. Ce qui fait qu'à la fin de la messe de 11 heures, alors que les églises étaient pleines dans ce temps-là, tout le monde sortait, puis ça ne prenait juste une personne pour dire « En tout cas, Jean-Marie, il est beau ton Chrysler. » Et là, ça partait. 4,40, 3,40, il ouvrait le capot, les gens s'avançaient autour du capot.
Il aimait qu'on fasse des compliments sur son...
Tous les dimanches. Puis là, le monsieur curé disait, qu'est-ce que c'est? C'est un 440, monsieur curé. 440, 140 000 $. Puis là, quand son show était fini, il disait, Michel, ramène-nous à la maison. J'ai 6 ans. Il m'assoyait sur ses genoux. Lui, il avait les pédales parce qu'il avait des jambes assez longues. Moi, j'avais le volant.
Il avait des pédales.
Trois fois plus large que
moi. Longtemps qu'on n'a pas entendu. Des blocs.
Non, pas besoin. Lui, il avait ses grandes jambes.
Ah, OK.
Et moi, j'étais trop petit. Puis mais j'avais le volant dans les mains. Et là, je prenais le bras, je mettais ça sur le drive. Là, ils se mettaient les mains en arrière de la tête pour prouver à tout le monde que c'est moi qui conduisais. Et je ramenais la voiture. Les gens applaudissaient. Aujourd'hui, 9-1, DPJ.
9-1, DPJ, t'es sûr? L'escouade tactique t'arrête.
Pour revenir à Noël, oui. J'allais magasiner avec lui. Il disait, choisis ton cadeau. Je prenais toujours des pistes de course. Ah, je prendrais une piste de course. Parfait. Alors, pendant 3 semaines, en cachette dans le sous-sol, je jouais avec la piste de course. Au bout de 3 semaines, la veille de Noël, il disait, remballe le cadeau. On emballait le cadeau. Puis là, quand tout le monde était dans la maison, il y avait l'échange de cadeaux. Là, il disait, il y avait le Père Noël, mon oncle Rémi, qui disait, alors, à Michel de grand-papa et grand-maman. Et là, je déballais, je disais, hein, une piste de course! Les balais étaient finis, les pneus étaient finis, les chars ont été scrap.
Hey là, tu m'as rappelé des souvenirs quand t'as dit, les balais étaient finis.
C'est piste. Ah, les balais en dessous.
Les pistes de course, il y avait une petite voie centrale, puis il y avait deux balais qui gardaient le contact électrique. Sauf que quand t'allais trop vite avec ça, la voiture partait, elle dérapait, elle s'en allait dans le décor.
Moi, j'étais un peu maniaque. J'invitais mes chums à venir chez nous, parce que année après année, tu imagines, toujours une piste de course, puis une autre piste de course, je pouvais remplir le sol au complet. Et quand mes chums venaient jouer à la maison, puis qu'il manquait un virage, je disais, va-t'en chez vous. Comment ça? Parce qu'ils prenaient la voiture le matin. Non, t'as fait 3 tours sur le top, t'es mort.
Ben oui.
Hein, je suis mort. Oui, va-t'en chez vous.
Ben oui, t'as pris le clos.
T'as pris le clos. Quand ils revenaient, ils faisaient attention à ça. Tu sais que j'ai déjà mis le feu à la maison chez mon père? Parce qu'à un moment donné, j'avais décidé de faire un spectacle. Il y avait des spectacles de cascadeurs dans les pistes de course. Alors, ce que je faisais, j'inversais les balais d'une des voitures. Je mettais les deux voitures sur la piste, qui fait qu'ils partaient chacun dans leur sens. Puis à un moment donné, ils se rencontraient face à face, puis ils faisaient un accident. Je faisais des soirées de cascade, saut de la mort. Et la finale du show, c'était un plat. Ben, habituellement, c'est un plat d'eau dans lequel je faisais jumper une voiture, puis elle tombait dans l'eau. Ce soir-là, j'ai décidé de mettre de l'essence. Fait que là, j'ai fermé une lumière dans le sous-sol. J'ai mis de l'essence sur la voiture. La voiture est partie dans le noir. Alors, imagine une voiture en feu qui fait le tour du sous-sol au complet. Brrr, hein, les flots qui étaient là comme spectateurs. Waouh, waouh! Hey, la voiture est en feu, waouh! Et la finale, la voiture, il y avait un saut de la mort, sauf qu'elle tombait dans un bac, un Tupperware rempli d'essence. Ben, ça a fait... Pff, le feu a pris. Pompier, ah ouais, donc mon père qui veut me tuer. Pis... Mais c'est un bon spectacle.
Parlant de spectacle,
oui.
Tu as dit que ton prochain va être le meilleur.
Je le roule actuellement.
Mais il y a une finalité là-dedans. Moi, ouais. J'arrive pas à penser que tu vas rouler 4 ans, puis après ça, goodbye.
Goodbye. Il y a beaucoup de monde sur la route. J'aurai 66 ans.
C'est bien dit, ça. Beaucoup de monde sur la route.
Oui. Sur la route de l'humour, il y a beaucoup de monde.
L'humour de ma vie, le titre de ce spectacle.
Oui, parce que je veux que ce soit le meilleur show de ma vie. Et je veux que ce soit un peu un retour sur mes 40 ans, ce qui fera 40 ans de carrière. Je demeure un nostalgique, je me paye la traite, je suis un peu plus délinquant dans ce show-là.
Tu travailles avec Louis-Philippe Rivard, tu travailles avec Dominique Sillon. Écoute quand même.
Jeff Boudreau fait la mise en scène.
Oui, Jeff Boudreau.
Luc Chenet me sert à la fois de writer, excusez-moi l'expression, et aussi de psychologue, parce qu'il me connaît bien. Mais ces gens-là qui me connaissent, ils savent où aller avec moi. C'est-à-dire que moi, on ne m'écrit pas un texte. On ne m'a jamais écrit un texte, comme Michel, ça va être bon.
Non.
Il faut que ça parte de moi d'abord. C'est-à-dire que je raconte une anecdote et eux autres font, hey, c'est bon. Tu pourrais dire aussi ceci et cela, rajouter, nourrir la bête dans le fond.
Oui.
Puis le job du metteur en scène et de mon psychologue, c'est de dire maintenant comment on l'articule pour que ça soit. Il faut que ça soit drôle, bien sûr. Il faut que les gens débarquent puis qu'ils fassent. Je veux ma différence à moi. C'est-à-dire que je veux être certain que ce que je raconte, je peux pas prendre le texte puis donner le texte à Philippe Bond ou à Simon Leblanc ou nommez-les. Il faut que ça soit vraiment du bar.
Est-ce que tu trouves ça difficile d'écrire?
Eh ben, j'ai jamais écrit.
C'est ça, je te dis.
J'ai toujours raconté.
Tu l'as toujours dit, moi, j'ai pas écrit.
Mais là, cette fois-ci, ma blonde essaie de m'empêcher parce qu'elle dit, mon amour.
J'ai jamais tant travaillé.
J'ai jamais tant travaillé parce que pour la première fois, ce que j'ai fait, entre autres, c'est que j'ai enregistré le show. Je me suis enregistré sur scène, une caméra vidéo. On a envoyé ça à quelqu'un qui a tapé le texte. Ce qui fait que j'ai devant moi, qu'est-ce que je dis? C'est pour la première fois de ma vie. Je fais, ah, c'est ça que je dis. Ce qui me permet de regarder phrase par phrase et de dire, hey, c'est vraiment drôle. Imaginons si je rajoute ça.
Ouais.
Parce que si tu ne fais que raconter, des soirs, tu improvises, tu sors une ligne, mais des fois, tu t'en souviens plus après. Là, je dis à mon technicien, qu'est-ce que j'ai dit quand je parlais du grand-père ou quand je parlais... Ah! Alors là, ça se perd pas. Ce qui fait que ça va tellement être le meilleur des meilleurs.
En fait,
meilleurs.
C'est Barrette bonifié.
Exactement.
Plein de...
Oui, avec toute mon expérience.
J'allais dire Barrette rapaillée.
Oui.
Rapaillée.
Ouais.
Non, parce que tu vas avoir...
Après l'homme rapaillé, Barrette rapaillée.
Oui, mais tu vas avoir un rythme différent de spectacle.
Rythme différent, je me dénature pas parce que je veux que ça soit moi. Tu sais, c'est moi qui rentre sur scène puis qui raconte mes affaires. Je suis encore, bien sûr, dans la nostalgie. Je suis très actuel, par exemple, parce que dans mon sujet, dans mon show, je parle entre autres des transgenres, des non-genrés, du voile et tout ça, mais à ma manière. Parce que moi, je fais pas de l'humour à la guinantelle, exemple. Tu sais. Moi, je viendrai pas sur scène. Il faut que ça me touche. Il faut que j'ai quelque chose à raconter. Quand les gens vont apprendre que j'ai dans ma famille une femme voilée, les femmes font rien donc. Toi, personne ne sait ça, vous mm-hmm. allez l'apprendre.
Ah oui.
Quand vous allez entendre parler de Paul Hood, vous allez dire...
Hein? Attends,
oui, parce que je parle de toi dans mon show. Je parle de toi dans mon show. C'est très drôle.
Bon, drôle?
Très drôle.
J'espère que ça va être drôle.
C'est très drôle.
Fais-moi pas le coup de les deux humoristes qui ont dit de toi il y a 15 ans.
Non. C'est très gentil, c'est très drôle.
Non, bien sûr.
C'est très gentil. C'est très
j'ai
drôle.
Hâte d'entendre.
Je parle aussi de Gino Chouinard.
Je suis honoré. Gino Chouinard.
Gino Chouinard.
Le milliardaire du chocolat.
Oui.
Je dis ça à tout le monde.
Attends de voir ce que je fais de la chocolat favori.
Oui, mais je dis ça à tout le monde, moi. Mais je ne vous connais pas, mais je ne sais pas. Je dis plutôt Gino Chouinard.
Mais je regarde la série de spectacles que tu as à partir du 11 janvier. Là, t'en as fait plein déjà, encore octobre-novembre. Puis là, je regarde Saint-Marc-sur-Richelieu, ça part là, puis là, ça s'en va au Québec, Saint-Eustache, Montréal, Saint-Georges-de-Beauce. Écoute, t'en as jusqu'au 30
quoi?
Octobre, puis là.
Thérèse, je vais t'avouer une affaire.
Ça va être quand?
L'automne prochain. Parce que l'été, on roule pas.
Ouais.
Et alors, comme on roule pas l'été, ce passage-là, j'aurais pu me dire, on va le faire là, mais comme il y a des mois,
je parle
à l'automne. Puis il y a beaucoup de monde, de toute façon, actuellement. Ouais. Puis en plus, les dates, les dates pour trouver des dates pour faire des premières, c'est pas évident. Ouais. Fait que, en réservant d'avance, je vais être correct au mois d'octobre, au mois d'octobre ou novembre. Mais je te reviens, tu dis, j'ai beaucoup de salles. Lorsque les acheteurs, tu sais, il y a le show annuel où tous les diffuseurs en province, j'oublie le nom de cet événement-là.
Rideau,
bon. Ouais. Mon agent m'appelle pendant qu'il est à Rideau, il dit, Michel, on a un problème. Moi, ma réponse, je vais dire, écoute, si les gens ne veulent pas m'avoir, je comprends, ça fait longtemps. Non, c'est pas ça le problème. Il dit, tout le monde veut t'avoir. Comment ça? Mais il dit, t'annonces ton dernier show. Là, il y a plein de salles qui ont fait, t'as-tu peu? C'est son dernier. Il faut qu'il revienne chez nous. Il faut. Alors, ça va être la tournée dans laquelle je vais faire vraiment le plus grand nombre de spectacles dans des endroits même où des fois, je suis allé moins, mettons, au Nouveau-Brunswick, où je vais refaire la Gaspésie, puis la Côte-Nord, puis Gatineau, puis bien sûr, l'Abitibi, puis la Saint-Jean. Alors, je suis très content parce que tant qu'à finir, on fait le tour une dernière fois. Et à chaque fois, ça, c'est pour moi un petit deuil parce que tu dis, les gens qui sont devant moi, c'est la dernière fois que je vais les voir. Puis c'est la dernière fois que vous allez me voir. Alors, je vais me payer la traite parce que j'aime ça, être sur scène, puis je me paye la traite une dernière fois.
Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire après, là, dans 4 ans?
Qu'est-ce que je vais faire après?
Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire?
Tu fais partie de ça, toi, de ce que je vais faire après. Parce que je me... Ben, je veux pas te dire la
OK, dis-le pas. Mais au retour, Michel...
Je reprendrai la route. Mon fils, mon plus jeune, aura presque 18 ans.
C'est sur la route. On est fait pour aller sur la route.
On est fait pour aller sur la route. Alors,
Jack Kerouac.
Écoute, Jack Kerouac. Pourquoi ne pas refaire les routes? Ou la route de Jack Kerouac.
Et au retour, Thérèse.
Oui.
Ça fait pas mal de fois qu'on le compte, mais en tout cas, je veux dire qu'avec Michel, rouler avec lui, c'est.
Dangereux.
C'est un spectacle. Non. Dans le temps, c'était dangereux.
Oui, mais plus maintenant.
Plus maintenant.
Mais avant qu'on parte, Paul, vous savez que par ici, les fêtes Pharmaprix, j'ai une carte cadeau Pharmaprix à vous offrir d'une valeur de 500$. Je vous demande de me texter au 98985. Vous avez 5 minutes pour le faire parce qu'après 5 minutes, je ne prendrai plus de texto. Donc, 98985 par texto. Une carte cadeau Pharmaprix d'une valeur de 500$. Par ici, les fêtes, vous allez pouvoir offrir plein de cadeaux.
Vous avez décidé ça de même?
J'ai décidé ça de même.
Dans cinq minutes, on ferme la shop.
Oui, OK. Fini.
Dans cinq minutes, c'est fini.
C'est pas un concours. C'est,
vous avez cinq minutes.
Un beau concours. Ouais. 500 $ chez Pharmaprix.
Ben voilà. Mais vous avez cinq minutes.
Il en reste quatre.
Hein? On fait une pause et nous revenons avec notre invité, Michel Barrette. Alors, Michel Barrette, notre invité, a placé la barre très haute en 2020. C'est le départ de la grande aventure, de, en fait, un chapitre de sa vie qui va être consacré... Un dernier chapitre. Avant de passer à autre chose, je suis content de voir que tu regardes l'avenir, Michel, en disant, il y aura autre chose quand
même.
Mais
tu as même lancé Drôle de vie en DVD, oui. Et c'est sur iTunes, oui. Récemment.
Mais c'est parce que moi, j'ai toujours fait... Regarde, ça va être mon dernier, mes 12e. Tu sais, j'entends Philippe Bond 2.
Oui.
Rachid Badouri 3. Moi, c'est Michel Barrette 12. Parce que ça va faire 40 ans. Actuellement, là, prouvez-moi le contraire. Je suis humoriste actuel avec la plus longue longévité sur scène. Il y a des Dion, donc, qui est plus âgé comme moi. Mais en continu, il y a personne qui a la plus longue carrière. Tu sais, depuis que M. Deschamps a arrêté de...
Ben de faire du spectacle, c'est ça.
Spectacle. Mettons,
mais toi, là, en service continu.
Ben moi, je finissais, regarde, tu vois, j'ai fait mon dernier... Mon dernier spectacle, je l'ai donné le 1er septembre. Puis je suis déjà en tournée de mon nouveau spectacle, puis mon DVD vient de sortir du dernier show. Puis si on m'avait pas arrêté, j'aurais fait la première la semaine prochaine. On m'a dit, Michel, prends le temps un peu, ouais. Là, tu roules un peu, là. Fait que je roule partout en province, puis j'ai du fun. Puis j'aime
de rouler. Vous autres, vous avez roulé ensemble.
Oui, ouais. Ah oui, belle aventure.
Tu disais tantôt avant la pause, oui. C'est quelque chose de rouler avec Michel.
Bien, je comprends, c'est quelque chose, parce que, je vous raconte brièvement, on s'était dit, Michel et moi, parce qu'on aime aller à des lieux, sur des lieux qui ont marqué l'histoire. T'es allé te recueillir sur le site de l'accident qui a coûté la vie à James Dean.
James Dean, oui.
Tu roules sur la route 66. T'as fait Dallas. Et le dépôt de livres, oui. Devant lequel le président américain a été assassiné.
Le jour du 50e anniversaire, d'ailleurs, du décès.
En plus, ben, on t'avait parlé.
Oui,
ici,
oui, justement. Ben oui, vous m'avez parlé de l'aéroport en direct de là-bas et tout.
Alors, quand tu me mets à côté, Thérèse, d'un gars comme Michel Barrette, ben, j'ai l'impression de retrouver un frère intellectuel, là, façon de parler. Là. Oui. Et nos vacances coïncidaient. J'étais en vacances d'hiver, du temps des fêtes, à San Diego, et Michel était à Palm Springs. Et on s'est mis dans la tête, tous les deux, d'aller dans la Vallée de la Mort.
Au
Barker Ranch.
L'endroit où la gang de Manson seront arrêtés suite aux assassinats de, entre autres...
De 69. Et ça a été montré, d'une certaine façon, dans le film « Il était une fois à Hollywood » de, oui. Tarantino. L'as-tu aimé?
Je l'ai vu mille fois.
Évidemment, tout ça est romancé à la fin, ça ne correspond pas à la réalité.
Juste la fin.
Mais quelle ambiance dans ce film-là. Et Michel et moi, je suis allé chez Michel le retrouver à Palm Springs. Mm-hmm. Et on a pris...
D'abord, j'avais d'abord loué un petit Jeep, parce qu'on disait, pas faire du tout-terrain. il était flambant neuf, et au moment où j'ai voulu prendre le véhicule, le gars m'annonce, attention, elle ne fonctionne plus.
Oui.
Il est flambant neuf. Et là, j'ai loué un Cherokee.
Un Cherokee.
Mais ils m'ont dit...
Blanc.
Ils ont dit, à une condition, vous ne faites pas d'hors-route. Ben non, on ne fait pas d'hors-route. Et quand on s'en allait dans la Vallée de la Mort, dans un canyon complètement ridicule, on a fait tout...
Alors, pour se rendre là, on est allé coucher dans une ville typiquement californienne. Quand on dit une ville typiquement californienne, c'est pas San Francisco, c'est pas Los Angeles. Vous savez, c'est ville californienne du désert. Oui. Et c'était à Ridgecrest.
L'épicentre du dernier tremblement de terre.
Exactement. Il y a eu un tremblement de terre de presque 7 à Ridgecrest. Ouais. Et là, Thérèse, on a mangé dans un diner.
Un vrai diner.
L'Amérique profonde. Il y avait quelque chose. Il y a toujours quelque chose, excuse l'expression, mais d'étrange, de weird.
Tu sais, quand on s'est perdu dans le désert, puis qu'est arrivé l'espèce de véhicule ridicule et le monsieur de la grosse barbe, qui sent qu'on est perdu, puis qui nous dit, vous êtes passé... you just passed in front of the big rocks and this road.
Ouais. Ils nous avaient vus.
Ouais, ils nous avaient vus, mais on est dans le désert.
Pas de communication par téléphone, portable, rien. Le GPS, heureusement que mon GPS marchait.
Mais toi, c'était...
Parce qu'on s'est perdu.
Non, on aurait pu... Sérieusement, parce que la nuit dans le désert, il fait très froid.
Il y a des serpents.
Il y a tout ça. Puis il y a des roches qui veulent te tomber sur la tête, puis c'est pas large et tout. On s'est retrouvés, maintenant, on a abandonné parce qu'on voulait sortir du canyon avant la nuit.
Oui.
Et là, on s'est dit, écoute, il nous reste 15 minutes. parce que sinon le soleil va être trop bas, on ne sera jamais capable de retrouver notre chemin. Puis en plus, je savais que ma femme allait commander la garde nationale.
Elle l'avait dit, ta femme elle avait dit, je mets la police après vous
autres. Moi, sincèrement, là, j'ai vu les photos où vous avez passé ce Jeep-là. Ouais. J'ai vu les photos où, à un moment donné, d'abord, il n'y a pas de route, OK? Il n'y a pas de route. Non. Et là, vous, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est sorti de l'auto pour reculer pour voir si, est-ce qu'on passe.
Non, mais moi, non, mais lui, là, ça a pas de je reculais, puis il était derrière, il était dans mes miroirs pendant à peu près 3 km à gauche, à droite. Mais si je fais une erreur d'un pied, on est pris là. C'était toute une aventure. Mais Michel, la vraie aventure, ouais. c'est de rouler avec Paul Hood et de se mettre à parler des cas des meurtres de Manson avec les dates, les lieux. J'ai capitulé. Parce que cet homme est un encyclopédie. Puis moi, je pensais connaître mon sujet. Puis tu sais, je faisais mon petit coq. Ouais, mais il faut se rappeler que le 8 puis le 14, puis tu sais, on se rappellera du nom de tel. Et lui, là, il finissait les phrases, puis il en rajoutait puis des détails que je venais un peu fru. Fait que maintenant, je disais, écoute, il faut que je me concentre sur la conduite parce que j'étais fru de voir qu'il savait même.
Alors, c'est très bien complété parce que Michel était un conducteur extraordinaire. Aucune route. On allait d'un pneu à l'autre sur une roche.
Oui.
Vraiment ça, il n'y a pas de route.
Pour pas arracher dessous.
Pas de bon sens. Moi,
et finalement, on a trouvé les restes de ce ranch, le Barker Ranch, où toute la bande, incluant
la famille Manson,
a été coffrée.
Et on a des photos, c'est le fun, parce que quand je revois maintenant les photos d'époque, où on voit la famille Manson assise sur l'espèce de banc en ciment, parce que là-bas, ils ont construit le ranch à partir des objets autour, des roches, du ciment qu'ils avaient amené là-bas. On a cherché l'autobus qu'il y avait. Je peux pas comprendre. Tu sais, durant le procès de Manson, lorsque les filles vont venir témoigner, il y en a une qui va dire, parce que les policiers comprennent pas comment ils ont fait pour amener un autobus scolaire jusque-là, il y a une fille qui va dire, Charlie a soulevé l'autobus.
Oui, il a, par sa pensée, et l'autobus est arrivé en flottant.
Oh
en flottant.
Là là.
Et je peux encore pas comprendre comment ils ont fait pour amener un autobus là.
Et avec Michel, on a retrouvé à Ballarat, une ville fantôme. Quand on vous dit une ville fantôme, c'est classé Ghost Town aux États-Unis.
Les rares habitants de là ne sont pas très coopératifs.
Ben, c'est-à-dire, on n'a pas vu beaucoup, d'ailleurs.
Non, mais ceux qu'on a vus, il y avait des carabines. Écoute, t'as pas le goût, puis tu regardes de travers.
C'est vrai que ça faisait un petit peu... Mais Michel et moi, on a retrouvé le camion.
Oui, oui.
Dodge 46.
De...
Tex Watson. Qui était l'exécutant de tous ces meurtres épouvantables commandés par... Charles Manson.
Et Paul m'a empêché de faire quelque chose. Je t'en remercie.
J'espère.
Parce que moi, je suis un collectionneur, mais je respecte bien sûr les vieilles maisons, les objets qu'ils racontent, parce qu'il faut que ces objets-là demeurent et qu'ils racontent. On est là, et là, je reconnais dans la boîte arrière du Jeep en question, du vieux Fargo, il y a un contenant, tu sais, une espèce de contenant qui devait servir à mettre de l'essence ou je sais pas quoi, et j'ai voulu partir avec. Il dit, le seul... être au monde qui devrait dire le contraire, c'est toi, Michel. Parce que ça fait partie de l'histoire. C'est là, c'est sur les lieux, c'est dans le véhicule. Ah, j'ai dit merci, Paul, t'as raison.
Mais écoute, j'ai jamais vu, je te connais depuis longtemps, Michel, j'ai jamais vu Michel dans un état comme ça, toi qui étais un collectionneur, tu voyais ce véhicule-là. Il n'y a rien autour. C'est pour ça qu'il est là, il est resté figé dans le temps.
De toute façon, comment tu peux amener ça ici? Tu ne pourrais pas l'apporter, mettons que tu voulais.
Ah, je l'aurais mis sur mes épaules, j'aurais défait un morceau.
Mais sérieusement, ça peut pas. Ça ne peut pas sortir de là.
Non, il faut que ça reste là. Il faut que ça reste là parce que c'est encore une fois un témoin, c'est un objet témoin d'un événement triste et d'un pan de l'histoire.
Oui, mais toi qui possèdes des objets de collection, vraiment, qui sont associés à l'histoire, je le voyais, Thérèse, ça te travaillait dans l'esprit de dire comment on pourrait ramener ça? Comment on pourrait ramener ça?
Je m'imaginais bien plus en train d'accrocher le Jeep en arrière du Cherokee puis leur descendre en ville.
Imagine-toi, arrêter en tentant de voler le camion de la famille Manson. Pas pire.
Il y en a encore des vivants, parce que, bien sûr...
Ils sont tous, il y en a plusieurs vivants.
Ils sont vieux, mais...
Ouais, ben il y en a certains qui sont en prison encore. D'ailleurs, les filles sont encore en prison.
Watson, lui?
Watson est toujours en prison. Il a un ministère religieux. Et il a 5 enfants de 3 femmes différentes. Et il prêche. En prison. Attends,
je suis mal placé pour rire à lui. Il y a 5 enfants de 3 femmes différentes. Moi, j'ai 4 enfants de 8 femmes différentes.
OK, je retire ça. Je veux juste te dire qu'il prêche la bonne parole.
Ah, ça n'a pas de bon sens. Il a massacré la Bianca.
Le pire, le plus, en tout cas. Alors, oui, il y en a d'autres. On ira le voir. Nous allons faire une pause et nous revenons pour un dernier tour avec Michel Barrette. Alors, il nous reste peu de temps avec Michel Barrette. Nous avons tout exploré, Michel, ton avenir à court terme, à long terme, et surtout ton amour, ta passion, ta de découvrir des choses, mais également, quand on dit la passion, c'est quoi? C'est de vibrer et d'être ému aux endroits.
À découvrir.
Il t'en reste encore à découvrir.
Parce qu'il faut prendre la route. Tu sais, on parlait de Jack Kerouac tout à l'heure. Il y a une chose que j'ai pas fait encore. Je fais une relecture du roman Sur la route. Bien sûr, je dirais le roman le plus connu de Jack Kerouac, mais n'est pas le seul roman, bien sûr. Il y a Avant la route, il y a Vision de Gérard, il y aura Après, il y aura Big Sur, il y aura les Clochards célestes. Et on a tendance à penser que les voyages de Jack Kerouac l'amenaient toujours sur la 66. C'est faux. Parce qu'il se retrouve à Denver, donc plus au nord, il va se retrouver sur la côte. Il va louer une petite cabane à Big Sur, où il va écrire d'ailleurs Big Sur, parce qu'il est découragé de ce qui se passe à San Francisco. Parce que bien sûr, il était très sex, drug and rock and roll. Puis à un moment, il a besoin de prendre un peu d'air, mais il va s'apercevoir que c'est pas lui, ça, que de prendre de l'air, puis il va retourner à San Francisco. Mais alors, moi, j'aimerais. La relecture que je fais, c'est que Gallimard avait publié le ruban original, non corrigé, ce qui a promené au début qui a essayé d'être publié. Et une relecture des lieux, simplement des lieux. Alors, sous le Grand Chêne à Denver, au coin de la 4e Avenue, alors je veux refaire cette route-là pour aller sous le Grand Chêne, s'il existe encore, vraiment marcher dans les traces d'eux. Et ça me j'ai beaucoup d'émotion quand je pense à ça, parce que tu dis, tu sais, quand on était justement dans la Vallée de la Mort, c'est une belle aventure, mais quand on est sur les lieux, on se dit, ça s'est passé ici, ce qu'on voit là, les pas qu'on fait, là, on s'assoit, ces gens-là, l'ont vécu ça ici.
Surtout dans des lieux comme le site du Barker Ranch, où rien n'a changé
rien.
Depuis 50 ans.
Non, parce que... Écoute,
c'est resté tel quel.
Ben, ça veut pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fous comme nous qui ont...
Le ranch a brûlé, mais il reste les fondations. Ouais. Et je dis à Michel...
Tu m'as montré d'ailleurs l'endroit où Charles Manson s'est caché derrière, en dessous de l'évier.
De l'évier.
Ouais, lorsque les policiers sont débarqués.
Et là, la légende de sa famille disait... Il était impossible à un être humain, c'était trop petit pour rentrer là, mais Charlie est rentré. En tout cas. Mais l'endroit et les lieux, il y avait ce petit vent. Te rappelles-tu? Il était midi moins quart. Moi, j'arrêtais pas de regarder ma montre en disant, Michel, il faut s'arrêter dans le cas. Parce que le soleil se couchait quand même à 4 heures dans les montagnes durant l'hiver. Puis tu avais ce petit vent.
Ah, c'est creepy, total.
Écoute, creepy. Ça avait l'air d'un effet sonore de film. Tu sais, les films de cowboys.
Oui, merci. On avait l'impression d'être dans un décor de cinéma.
Voyons.
Mais c'est pas un décor. Ouais. Puis ces événements-là, c'est pas un film. C'est la vraie vie. C'est triste, c'est horrible comme événement. Mais c'est ça. Quand tu te retrouves à Dallas, t'es allé aussi, et que tu te tiens sur le X dans la rue, là, à Dealey Plaza, là.
Toi, t'es allé 50 ans jour pour jour, parce qu'on avait fait une entrevue, Thérèse, le 22 novembre.
Pour l'anecdote, la veille de mon départ, ma femme m'annonce que notre vol est cancellé. Je dis, comment il est cancellé? Voyons, il peut pas être cancellé, on part, il faut être là. Ta. Finalement, on prend un autre vol qui nous amène à Love Field, c'est-à-dire le même aéroport où Kennedy va atterrir avec Jackie. On embarque dans la limousine et la radio locale repasse à la minute exacte la bande radio de l'époque. Alors, actually, the motorcade is running down. Et à un moment donné, on arrive, il va tourner à gauche sur M Street et on est à un pâté de maison. Je dis au gars, arrête, on va manquer Kennedy. Moi, dans ma tête, Kennedy
et
va...
Toi, t'essayais de te synchroniser.
On était synchronisés, mais top chrono, là. On courait sur le trottoir, puis quand on est arrivé devant le dépôt de livres, il y avait le gouverneur du Texas, l'armée des affaires. Mm. Moment de silence. « At this moment, 50 years ago, John Fitzgerald Kennedy been shot dead. »
Midi 45,
et là, les avions. Et là, t'as le frisson, tu te dis, c'est ici, à la même heure, la même minute, la même seconde.
Il y a 50 ans.
Et pour moi, ça, là... Et j'ai refait à pied le trajet de Lee Harvey Oswald, aller à la maison de chambre, j'étais allé où l'officier Tippit a été tiré, j'étais allé au Texas Theater, m'asseoir sur le... Refaire, marcher dans les traces d'eux. Que j'aime ça.
En tout cas,
c'est un beau projet. Jack Kerouac, peut-être,
Mais ça, c'est bien, ça. C'est un beau projet.
Je peux faire la même chose avec James Dean, je peux faire la même chose avec
Marilyn. Veux-tu la meilleure, Michel, il ne reste pas beaucoup de temps. Quand je fais ce genre de voyage-là et ces découvertes-là, c'est incroyable le nombre de Québécois d'origine qu'on retrouve associés à toutes sortes d'histoires américaines, même dans l'affaire Manson. Un tel était, son père était, tu sais, Bobby Beausoleil, qui était un des meurtriers avant Bobby Beausoleil.
Beausoleil.
Et son père était un barbier qui avait quitté le Québec, puis influencé par Jack Kerouac, avait décidé de vivre son rêve américain. Beausoleil est toujours vivant, il est toujours en prison.
Regarde le lien que tu viens de faire. Influencé par Jack Kerouac, il prend la route et va se retrouver avec la gang de Manson.
Alors, Michel, j'espère que tu vas passer de belles fêtes, sérieusement.
Oui, je te le jure. Et je vous en souhaite des belles aussi.
Je salue ta conjointe qui est très gentille. Ta conjointe qui est prête à mettre la police et l'armée après nous autres. tu vois comment elle tient à toi et à toute ta famille. Merci beaucoup, Michel Barrette.
Trop gentil.
Et j'ai hâte d'aller avec
Salut,
Thérèse
Michel,
assister à ton meilleur spectacle à vie, garanti ou argent remboursé.
Et la joke que je fais sur toi.
Merci, bonne semaine.